Bonjour à tous. Merci d'être resté pour cette dernière conférence du Salon BIM World pour un sujet, on va dire, d'enjeu majeur pour le BIM, puisque c'est BIM et modélisation énergétique et environnementale. Donc on va essayer d'être dynamique sur cette dernière intervention. On a réuni un plateau de choix avec notamment deux éditeurs et deux utilisateurs et on va dire praticiens d'énergétique du bâtiment et de calculs environnementaux. Donc on aura Florian Chermeux, ingénieur études, référent BIM de Lefort-Franchetot, Lise Slama, gérante donc de BBS Slama, Quentin Gilbert, qui est vice-président en charge de la commission bâtiment et Smart City du UpTen, et puis Ludovic Bureau, ingénieur énergéticien et développeur informatique chez Isuba Energy. Donc on va aujourd'hui aborder l'Open BIM au service de la réglementation environnementale, et on a choisi pour ça au début juste d'introduire le contexte RE 2020 pour un peu faire un peu rappel du contexte et qu'est-ce qui est un peu la grande nouveauté dans cette réglementation et quels enjeux ça pose pour nous praticiens d'énergétique et de l'environnement. Et puis ensuite on a plutôt choisi d'être sur une approche de c'est bien l'RE 2020 mais en RT 2012 comment on fait et pourquoi ça marche pas trop, et du coup, qu'est-ce que ça pose pour l'Aéro 2020, ou en tout cas les difficultés qu'on déjà on observe, qu'est-ce qu'on arrive à faire, et quels sont un peu les enjeux pour nous dans la prochaine réglementation, avec des retours d'expérience et la pratique telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc juste pour en introduction, l'Aéro 2020 s'inscrit du coup dans un contexte, je pense que vous connaissez tous, de la stratégie nationale bas carbone mise en place par la France au travers de la loi transition énergétique pour la croissance verte. Cette SNBC pose l'enjeu pour la France d'être neutre en termes de carbone à 2050, avec un certain nombre d'obligations à respecter par différents budgets qui sont mis en place, des budgets carbone avec des limites à ne pas dépasser. Et si on décline cette stratégie nationale bas carbone sur la partie bâtimentaire, eh bien, c'est faire en sorte aujourd'hui que le bâtiment qui représente 43% des consommations d'énergie finale et 19% des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, tout simplement représente un secteur où on a un vivier de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est assez conséquent. Et pour on va dire, contraindre le secteur bâtimentaire, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, à encore réduire ses émissions et le volume de consommation en énergie finale, eh bien, il a été décidé de mettre en place une nouvelle réglementation non plus thermique mais environnementale qui va donc être beaucoup plus exigeante non plus que sur la partie consommation mais sur la partie impact carbone et sur la partie réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors pour ceux qui connaissent on va dire la RT 2012 et qui sont un peu praticiens, j'imagine que vous avez déjà un petit eu des présentations et vous savez un peu la grande nouveauté. Et pour ceux qui sont un peu plus néophytes, avant, la RT 2012 posait comme exigence de respecter un seuil de consommation d'énergie en énergie primaire, d'avoir une bonne enveloppe au travers d'un indicateur BBIO et aussi une approche sur le confort thermique d'intérieur avec la TIC. Eh bien, aujourd'hui, des nouveaux indicateurs ont fait leur apparition dans cette RE 2020. Un indicateur de consommation en énergie non renouvelable, donc il s'agit aujourd'hui de contraindre les bâtiments à ne pas dépasser une consommation d'énergie sur, qui sont issus de vecteurs non renouvelables, tels que, par exemple, le gaz. Et puis, on a deux indicateurs qui ont fait leur apparition. L'indicateur IC énergie, qui est contraindre le bâtiment à ce que les impacts carbone liés à la consommation d'énergie ne dépassent pas un seuil. Et la partie IC construction, où le bâtiment va devoir respecter un seuil maximum en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur les produits de construction et d'équipement. Donc typiquement, du kilogramme de CO2 émis par mètre carré de surface de plancher que vous ne pourrez pas dépasser en fonction de la typologie de votre bâtiment. Et puis l'approche confort d'été a elle aussi été revue avec une approche plus du confort adaptatif où on va être sur un nouvel indicateur qui s'appelle le degré heure et non plus la TIC, où vous avez entre guillemets un nombre d'heures, un volume d'heures à ne pas dépasser sur une certaine période où la température opérative de votre bâtiment ne va pas dépasser une température opérative cible. Donc aujourd'hui, on va jouer entre guillemets non plus avec trois indicateurs réglementaires, mais avec six, ce qui fait qu'on avait déjà des calculs, on va dire, réglementaires sur l'aspect thermique. Et bien aujourd'hui, on a des calculs sur la partie énergie carbone qui font leur apparition, le confort d'été étant déjà introduit précédemment. Alors pour nous, praticiens ou éditeurs, la partie IC Énergie est assez, entre guillemets, simple dans son approche, puisque, entre guillemets, on prend les consommations d'énergie finale du bâtiment et on va chercher le facteur d'émission correspondant qui est publié par l'arrêté, et on calcule du coup le kilogramme de CO2 équivalent sur 50 ans qui est émis dû aux consommations d'énergie du bâtiment. Et à ça, on doit ne pas dépasser un seuil maximum qui s'appelle IC Énergie Max. Jusque-là, c'est assez, on va dire, simple en termes d'approche. Une fois qu'on a fait le calcul d'IC Énergie, il y a un autre calcul complémentaire à réaliser qui s'appelle donc le IC Construction, où on ne va pas devoir dépasser un kilogramme de CO2 équivalent par mètre carré sur 50 ans, qui est dû à toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux produits de construction et d'équipement. Et il faut respecter un IC construction max. Ce IC construction max, il a des valeurs qui ont été établies pour les maisons individuelles, les logements collectifs, les bâtiments d'enseignement et de bureaux. Et vous avez des seuils qui sont plutôt progressifs à partir donc du 1er janvier 2022 pour les bâtiments résidentiels, à partir du 1er juillet pour les bâtiments tertiaires et de bureaux, et puis à partir du 1er janvier 2023 pour tous les autres bâtiments, et avec des seuils qui sont progressifs pour permettre à la filière industrielle d'équipement de pouvoir, on va dire, s'adapter en termes d'optimisation de leurs produits vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre. Donc en tant que praticien, le calcul d'IC construction, il est en théorie assez simple, puisqu'il s'agit en bas d'effectuer le quantitatif de chacun des produits et d'équipements qui sont utilisés dans le bâtiment, d'affecter à chaque quantité donc un mètre carré de menuiserie, un mètre cube de béton, un mètre linéaire de plinthe, une donnée environnementale correspondante pour déterminer du coup l'impact environnemental de mon bâtiment. Pour ces données environnementales, elles sont aujourd'hui centralisées dans une base de données qui existe depuis 2005, qui est la base de données INIES, où on va retrouver du coup les données environnementales des produits et d'équipements sous la forme de FDES, donc les fiches de données environnementales et sanitaires, soit sous la forme de PEP, produits environnementaux de produits, pour la partie plutôt équipement, soit ce sont des données qui sont par défaut, qui est établie par le ministère, ou alors des données plutôt de services, comme par exemple tout ce qui est lié à le traitement des eaux usées ou les consommations d'énergie. Donc ça, ce sont des données qui sont plutôt établies par le ministère. Et aujourd'hui, toutes ces données sont centralisées au sein de cette base de données INIES. Donc sur le papier, on fait quantité fois données, modulo quelques facteurs d'adaptation. Par exemple, si votre produit a une durée de vie de référence de 20 ans et les calculs sont faits sur 50 ans, du coup, vous avez un facteur de renouvellement à prendre en compte. Et derrière, on obtient le kilogramme de CO2 équivalent du bâtiment. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la réglementation, la RE 2020, c'est un vrai calcul d'ACV qui repose notamment sur les données produits, la 15804, NFN 15804. Mais aujourd'hui, le seul indicateur réglementaire, donc qui est aujourd'hui contraint, c'est le premier indicateur de la 15804, qui est l'indice de réchauffement climatique avec le kilogramme de CO2 équivalent. Mais le moteur RE 2020 en calcule une dizaine, simplement vous ne les voyez pas dans le résultat final, tel que l'eutrophisation des eaux, tout ce qui est lié à la photocatalyse, etc. Et entre guillemets, l'exigence réglementaire porte sur le kilogramme de CO2 équivalent. Pour effectuer l'ensemble des quantitatifs de la RE 2020 et pour que chacun le fasse dans un cadre qui soit harmonisé, on a donc défini 13 lots qui représentent l'ensemble des composants du bâtiment avec des sous-lots. Où donc quand vous effectuez un quantitatif, celui-ci est rattaché à un sous-lot et à un lot correspondant. Et du coup, ensuite, réglementairement, on connaît le kilogramme de CO2 équivalent pour chaque lot qui est concerné. Donc aujourd'hui, cette approche, elle est structurée en termes de décomposition par lot. Donc nous, en tant que praticiens et adeptes du BIM, ça nous correspond plutôt bien. Et aujourd'hui, on se dit que cette approche RE 2020, elle est plutôt dans un contexte qui est favorable, puisque aujourd'hui, l'approche IFC a un peu préparé le terrain de cette RE 2020, et notamment sous l'impulsion du chapitre français de Building Smart, puisque dans l'IFC 4, on retrouve les impacts environnementaux de l'Aéro 2020. En fait, aujourd'hui, ces impacts, donc réchauffement climatique, eutrophisation des eaux, sont des propriétés qui sont reconnues dans l'IFC 4. Donc, l'IFC est aujourd'hui capable de porter ces informations pour la réalisation d'analyses de cycle de vie. Donc ça, aujourd'hui, l'Aéro 2020 s'inscrit dans un contexte d'open BIM parce que déjà, le contexte, il est favorisé par l'IFC 4 et le fait que toutes les propriétés environnementales soient aujourd'hui définies et notamment au travers du BSDD, pour ceux qui ont un peu suivi les conférences de Building Smart sur le BSDD. Et l'Aéro 2020, sur la partie aussi énergétique, est aussi favorisé par l'IFC 4 puisqu'il y a un deuxième paramètre qui est assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, l'IFC 4 permet aussi une approche beaucoup plus fine sur les calculs énergétiques, avec notamment, sur le papier et en théorie, la capacité de détecter beaucoup plus facilement les ponts thermiques. Bon, ça, c'est deux aspects, on va dire, grosso modo. Donc ça, c'était un peu pour vous introduire le contexte RE 2020, de en quoi ça consiste pour nous praticiens en termes de nouveautés. Et on va dire aujourd'hui que effectivement, les maquettes numériques s'inscrivent bien dans ce contexte de quantité, puisse donner inscrit dans les IFC, je peux réaliser mon calcul. Nous, au sein du GT BEM, donc Building Energy Modeling, on se rend compte qu'il y a des difficultés aujourd'hui à réaliser ces calculs, déjà de façon énergétique, il y a des choses qui sont possibles, on arrive à réaliser un certain nombre de calculs qu'on vous présentera, mais on est aussi conscient aujourd'hui qu'il y a des difficultés, et la RE 2020 nous oblige à avoir une seconde approche, qui est celle du carbone, en plus de nos simulations énergétiques. Donc il s'agit pour nous, au sein du GT, de produire des documents de référence pour que chacun puisse construire un IFC ou utiliser un autre format, on va dire, libre, open, pour réaliser facilement les simulations énergétiques et environnementales. Et donc ce qu'on s'est donné comme feuille de route pour cette année 2022. Donc là, je vous ai expliqué un peu le contexte de façon assez synthétique. Donc là, aujourd'hui, eux, ils vont vous expliquer la pratique aujourd'hui qu'ils ont en termes d'énergie et d'environnement grâce aux maquettes numériques et à l'IFC et quels enjeux aussi ils voient à l'avenir sur la partie Open BIM. Alors du coup, je vais laisser Florian introduire un peu le propos de justement, est-ce que l'Open BIM le fait gagner du temps aujourd'hui en tant qu'énergéticien et quel, on va dire, contexte il y voit avec l'Aéro 2020.
Merci Cécile. Du coup, suite à cette introduction, aujourd'hui, le constat qu'on fait sur les modèles énergétiques et environnementaux du point de vue maquette numérique est assez mitigé finalement sur l'utilisation et la concrétisation des modèles énergétiques pour plusieurs raisons, mais les principales vont être principalement celles des usages qui ne sont pas forcément anticipés du point de vue des modèles. C'est-à-dire les usages de Building Energy Modeling qui ne sont pas forcément anticipés dans les maquettes, c'est-à-dire que toutes les données ne sont pas forcément disponibles dans les maquettes pour qu'elles puissent être réutilisées derrière dans des simulations énergétiques ou environnementales, dans des maquettes qui permettront du coup de faire cette simulation énergétique et environnementale. Il y a aussi d'autres sujets liés principalement au format IFC, GBXML et autres qui ne sont pas forcément encore très aboutis pour pouvoir intégrer tous les besoins énergétiques. Et donc il y a ce constat qu'on fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner mais qui doivent encore être améliorées aujourd'hui. Et c'est là l'intérêt aussi du groupe de travail, comme l'a dit Cécile.
Et du coup, si on veut un peu rebondir sur l'aspect un peu cahier des charges, est-ce que tu penses aussi que c'est un message dans les cahiers des charges de maîtrise d'ouvrage ou dans les protocoles BIM de se dire les usages énergétiques et environnement aujourd'hui sont peut-être pas assez pris en compte?
Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus, du moins pour la partie exécution, celle dans laquelle nous on intervient chez Lefort-Franchetot, on voit de plus en plus de cahiers des charges dans lesquels on voit des lignes apparaître sur la partie BEM et sur la partie calcul RT pris sur la base d'une maquette. Finalement, ce genre d'usage-là est généralement laissé déjà optionnel. Il a le mérite d'être mentionné dans un premier temps, mais aujourd'hui, il n'est pas suffisamment suivi derrière dans les faits. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui va contrôler ou du moins pousser dans cette démarche-là. Donc aujourd'hui, on le voit apparaître, mais il n'est pas encore suffisamment suivi et mis en œuvre.
Bon, du coup, merci pour un peu le contexte énergétique. Alors du coup, aujourd'hui, on n'est plus que sur l'énergie, on est sur la partie carbone. Et est-ce que, en tant qu'éditeur, déjà, vous avez fait plusieurs constats sur la partie RT 2012, mais quel enjeu ça vous pose, cette RE 2020, en fait, par cette nouvelle approche carbone ?
Oui, donc nous, on a déjà beaucoup travaillé sur la partie thermique RT 2012, enfin comment à partir d'un BIM faire les études thermiques. Et du coup, on pensait utiliser ce savoir pour peut-être l'étendre et aller aussi faire des calculs environnementaux. Et en fait, c'est pas du tout évident puisque les deux aspects du travail sont assez différentes. Au niveau thermique, on s'intéresse vraiment aux problèmes de manière surfacique. On s'intéresse aux murs qui sont en face de nous. Qu'est-ce qu'il y a derrière les murs? Quels sont les ponts thermiques? Alors qu'au niveau environnemental, on s'intéresse au volume. Et du coup, on a été confronté déjà à deux approches différentes et à la non-évidence, en fait, de travailler ensemble les aspects thermiques et environnementaux.
Donc plutôt aujourd'hui deux modèles finalement qui on serait une approche de deux approches en termes de modélisation.
Oui voilà, on a la maquette IFC à partir de laquelle on va extraire des données pour la thermique et ça va pas être les mêmes données qu'on va extraire pour les calculs environnementaux.
Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore aujourd'hui comment on modélise thermiquement les choses, enfin en tout cas quelle pourrait être une approche en termes de modélisation, puisque c'est déjà une complexité en soi. Est-ce que côté Usuba, vous pouvez aussi un peu nous présenter comment on modélise concrètement un modèle énergétique ?
Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Usuba, oui, on est éditeur de logiciels de thermique depuis 20 ans. Historiquement, chez nous, les gens dessinent dans notre modeleur la maquette en partant de rien du tout. Alors, il y a de ça 7 ans, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe via notamment l'OpenBIM et des formats IFC4 ou GBXML et que l'on puisse intégrer ces maquettes directement pour pouvoir les utiliser dans notre outil.
En quelques mots, est-ce que tu peux peut-être définir GBXML ? Non, est-ce que tu peux juste définir avec GBXML ? Je sais pas si tout le monde...
GBXML, alors c'est un standard OpenBIM qui est spécifiquement dédié à la thermique du bâtiment, qu'on retrouve beaucoup... Alors, qui est utilisé par les Américains à la base, c'est un format américain de la SRAE qui se retrouve dans les principaux logiciels de thermique internationaux.
Okay. Et du coup, je te laisse continuer.
Du coup, je continue. Ouais. Alors, on s'est lancé sur le projet il y a de ça 7 ans. Alors, on a en parallèle fait un plugin Revit, mais l'idée principale, c'était de partir sur l'OpenBIM pour pouvoir réintégrer cette maquette. On a eu des premiers retours, les premiers tests étaient bons, on arrivait à analyser les ponts thermiques, donc à faire des calculs. Très très vite, on s'est rendu compte que cette solution n'était pas viable avec les maquettes qu'on récupérait des outils de CAO classiques utilisés par les architectes. En gros, les choses qui ne marchaient pas, c'était des problématiques de dessin qui n'étaient pas du tout adaptées à la thermique du bâtiment. Des problèmes également au niveau de l'analyse numérique qui était fait par l'outil de CAO qui ne faisait pas bien correspondre les volumes avec les adjacences de pièces et de parois. De fait, dès que la maquette IFC4, etc. venait d'un outil de CAO, et ben ça plantait. Hormis si on avait une saisie très très rigoureuse. De fait, on se dit que cette solution-là, en fait, elle marche si quand la maquette vient d'un outil qui fait aussi de la thermique du bâtiment. C'est-à-dire que typiquement, nous, les retours qui étaient positifs, le premier retour qui était positif, il venait de Virtual Environment. On s'est même étonné d'ailleurs de trouver une maquette qui était propre. On a appelé l'utilisateur pour savoir, tiens, mais comment tu as fait pour faire une maquette propre ? C'était facile, elle venait d'un outil qui faisait également de la thermique du bâtiment. Alors, on a un peu changé notre fusil d'épaule et on s'est dit, bah, c'est pas comme ça qu'il va falloir travailler. D'où, depuis maintenant, ça va faire 2 ans, on utilise les mêmes entrées, mais on ne cherche plus à les mettre directement dans une maquette qui sera fidèle et parfaitement synchronisée avec la maquette architecte, mais on cherche à la reporter dans notre modeler et à effectuer tous les correctifs dans le modeler. Alors, on a rajouté des petits outils qui améliorent ces correctifs. C'est perfectible. Moi, je ne cherche pas à vendre du rêve avec ce type de saisie, mais l'idée, c'est qu'on puisse au moins avoir la main qu'on puisse recontrôler la maquette en tant que thermicien, ça je pense que c'est très important, et qu'on puisse n'imposer aucun protocole à la saisie. L'idée, c'est de prendre vraiment toutes les maquettes. Voilà.
Bon, du coup, vous n'êtes pas tout seul à avoir réfléchi à cette question. Il y a même quelques travaux de recherche qui se sont faits sur le sujet. Et justement, au GT, on essaie de continuer à travailler. Et du coup, un peu les conclusions, vous aussi, que vous avez eues sur le projet BI, rejoignent un peu ce qu'il disait Ludovic.
Oui, en fait, c'est assez proche. Donc, nous, on a travaillé pendant 2 ans sur le projet BI, qui est un projet qui a été subventionné par l'ADEME, sur lequel on cherchait à faire des calculs à partir d'un BIM pour le calcul énergétique et environnementaux. Et donc, on a eu une approche un peu similaire. Je vais essayer d'expliquer le schéma. Donc, en haut, vous voyez en bleu tout le processus de la maquette. La maquette provient soit d'un travail d'un architecte, soit d'une ingénierie. Et on va faire un import de cette maquette. C'est-à-dire que dans cet import, on va faire une analyse géométrique et on va reconstituer une maquette thermique. C'est-à-dire qu'on part de l'idée qu'on prend des maquettes imparfaites. On part sur l'idée qu'on ne demande pas de protocole particulier, mais qu'on prend des maquettes imparfaites qui, par exemple, dans lesquelles on peut avoir oublié une dalle, dans laquelle les portes sont ouvertes ou les murs ne se touchent pas, enfin tout ce genre de petits trucs qui sont un détail pour un architecte, mais qui sont importants pour nous. À partir de là, on aura notre maquette corrigée sur laquelle on peut faire nos calculs énergétiques. Et pour l'aspect environnemental, donc, en fait, on le traite également surtout par les données techniques du bâtiment. Donc, c'est plutôt la partie verte, la partie en bas. Donc, vous voyez en bas, il y a la base INIES et la base Edibatec qui va permettre de caractériser les produits. Les produits, on les met dans des catalogues. Et dans ces catalogues, en fait, ça paraît pas important, mais c'est hyper essentiel. Par exemple, les catalogues de ponts thermiques, c'est là où on va définir exactement comment est constitué le pont thermique. Et pour la thermique et aussi pour le calcul carbone environnemental, c'est hyper important parce qu'on aura exactement les volumes nécessaires, enfin exacts, et on aura exactement les bonnes valeurs. Et ce calcul-là, typiquement, en fait, on pense que c'est au niveau du calcul thermique qui peut être fait et qui ne peut pas être dans la maquette, ou en tout cas qui doit être vérifié par le thermicien à ce moment-là. Et je pense que j'ai tout dit. Donc nous, notre partie BI, en fait, c'est pour ça qu'on a fait ce rayon jaune. C'est à la fois tout cet enrichissement des catalogues pour les aspects environnementaux et tout ce qui est import de maquettes à partir d'un IFC, quoi. Analyse géométrique de la maquette et import, voilà.
Donc les conclusions, elles sont plutôt positives ou elles sont mitigées? Est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous avez utilisé aussi les résultats du projet dans vos développements?
Oui, en fait, on est assez satisfait puisqu'on arrive à faire des analyses géométriques de quasiment tout. Alors bien sûr, on a toujours des surprises, vu que ça dépend des géométries, donc on peut avoir des géométries particulières, de aréna spéciales, enfin bon bref, dans lesquelles on va avoir de nouveaux problèmes qui vont se poser. Mais oui, nous on est assez satisfaits, enfin on trouve que c'est plus facile de donner les outils pour corriger un problème et à continuer d'avancer, et les outils aussi pour vérifier toutes les informations qu'on a au fur et à mesure, que d'attendre une maquette pertinente, parce que on a un peu laissé tomber l'idée que l'architecte peut avoir une maquette thermique pertinente.
Alors du coup, là on a vu le point de vue d'éditeur et leur approche. L'avantage dans le GT, c'est qu'on mélange les points de vue et les pratiques, et on se nourrit aussi de ceux qui utilisent au quotidien les outils des éditeurs, notamment sur l'accord Arena et des fois les limites que ça donne. Alors là, on va plutôt essayer d'aborder un retour du coup utilisateur et concrètement ce que vous arrivez à faire avec les outils des confrères et un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui est intéressant aujourd'hui en termes de capitalisation. Donc, je vais laisser Quentin nous présenter son approche en tant que bureau d'études.
Oui,
Donc effectivement, donc, là je vais me positionner un peu du côté utilisateur bureau d'études thermiques et de voir comment, en gros, quelle est notre interaction en tant que bureau d'études avec cette maquette numérique, cette notion d'Open BIM et la RE 2020. Alors justement, ce que l'on souhaite, alors quand je dis on, c'est les membres du groupe de travail BEM de Building Smart France et pas que d'ailleurs. Ce que l'on souhaite, c'est que cette RE 2020, du coup, ce soit un élément, un catalyseur, un accélérateur un peu du déploiement des outils numériques et digitaux dans le cadre de la conception des bâtiments, et notamment, en l'occurrence, pour le métier d'énergéticien, où on se rend compte, au final, par rapport à d'autres, d'autres bureaux d'études, métiers type bureau d'études structure, bureau d'études fluide, où on a des outils qui sont quand même assez évolués et qui fonctionnent bien sur la partie thermique et du coup environnementale avec cette RE 2020, on est malheureusement un peu pauvre. Alors, pour vous expliquer de façon un peu triviale comment ça fonctionne, comment on fonctionne, nous, quand on vient utiliser la maquette numérique, alors déjà, il faut que les bureaux d'études thermiques utilisent l'outil numérique, parce que dans une majorité des cas, il va y avoir une saisie manuelle, on va dire à l'ancienne, des études thermiques, puisque la finalité, c'est d'avoir un gain de temps. Si vous passez plus de temps à corriger une maquette qu'à ressaisir manuellement votre modèle de bâtiment, il n'y a aucun intérêt. Donc, dans 90 ou 95% des cas, quand on va venir faire exploiter la maquette numérique, on va faire un export de l'IFC de la maquette architecture pour venir l'importer dans nos outils métiers. Ça peut être sous ClimaWin ou sous Pléiade pour collecter un maximum de données. Plus on a de données, forcément, plus on a de gains de temps, de productivité. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est principalement la récupération de tout ce qui est volumétrie, éventuellement composition de parois si on a une bonne définition de celle-ci, et puis la définition des espaces et des locaux avec des affectations d'usage. Alors ça, c'est intéressant, l'affectation d'usage, parce que je prends l'exemple d'une chambre. Si vous avez une pièce qui est identifiée en tant que chambre, au sens de la réglementation thermique, vous allez y associer forcément des scénarios d'utilisation, température de consigne de chauffage, une densité ou une périodicité d'occupation, ou débit de ventilation d'air. Donc c'est des informations qui sont déjà saisies, qui sont déjà rentrées. Alors après, cette maquette, elle ne peut pas être exhaustive, forcément. Et c'est là où arrive la valeur ajoutée du thermicien. Le but, c'est de venir compléter cette maquette avec la conductivité thermique des isolants, par exemple, ou des différents matériaux, où on vient renseigner également les performances des équipements de chauffage, de ventilation ou d'éclairage. Puis on fait mouliner dans le moteur de calcul de la réglementation thermique pour voir si le projet est conforme ou pas. C'est plutôt sur le volet énergétique. Aujourd'hui, dans le cadre de la RE 2020, on a l'aspect ACV. Alors, en termes de fonctionnement, sur l'analyse de cycle de vie, c'est vrai qu'on fonctionne à partir principalement des DPGF, les compositions de prix globales et forfaitaires, c'est-à-dire les quatre bordereaux de réponse des entreprises, c'est-à-dire une prestation en face, une unité ou une quantité, en mètres linéaires, en mètres carrés, en mètres cubes, auxquels on vient associer une fiche de données environnementale et sanitaire. Donc ça permet de quantifier pour chaque prestation le poids carbone de l'élément de construction du bâtiment. Ce qui serait intéressant, et c'est un peu l'objectif, et c'est aussi les travaux du GTBM, c'est de venir récupérer ces quantités. Alors on l'a vu que c'est assez compliqué hein, au niveau des modèles, puisque c'est des modèles qui sont assez différents, de venir récupérer ces quantités pour n'avoir uniquement la possibilité d'y associer une fiche de données environnementale et sanitaire. Et ça nécessite d'avoir une modélisation qui soit particulièrement rigoureuse. Alors on sait que ça fonctionne lorsque les modélisations sont correctement réalisées et lorsqu'il y a une convention qui a été correctement rédigée. Mais on sait que la limite, voilà, on a une limite de l'exercice par rapport à ça. Donc là, ça c'est le stade actuel, on va dire, en matière de fonctionnement. Ça va plutôt dans un sens, maquette architecte et puis logiciel métier, on va dire, du bureau d'études. Ce que l'on souhaite sur le slide suivant, c'est d'avoir en fait la notion d'open BIM ou d'interopérabilité des outils métiers intervient et où on arrive à avoir de la pertinence, c'est-à-dire que l'ensemble des informations qui sont renseignées dans le modèle numérique d'un point de vue énergétique et vis-à-vis de la conformité de la RE 2020 puissent être réinjectées éventuellement dans une même maquette commune, on va appeler maquette architecture, qui permet d'avoir un même support qui regroupe la maquette architecturale, la maquette structure, la maquette fluide, et puis la maquette du thermicien sur le volet énergétique et environnemental. Ce qui permet ensuite d'utiliser cet outil-là sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment. C'est là qu'on vient parler de la notion de BIM, que ce soit la conception, de la réalisation, ensuite sur la phase de livraison. Quoi.
Merci Quentin pour ce retour pratique. Du coup, Florian va aussi pouvoir nous donner un peu son point de vue en termes d'utilisation.
Oui. Du coup, pour vous présenter un peu ce que nous, on a pu tester ces dernières années, j'ai pris l'exemple du projet des tours du haut sur lequel on a travaillé et pour lequel on a fait le bilan thermique et le calcul réglementaire dans la phase d'exécution. On avait une problématique principale qui était la modélisation des brises soleil sur l'une des deux tours qui initialement dans notre calcul réglementaire et dans notre bilan thermique on n'avait pas forcément pris en compte parce que leur complexité géométrique était telle que c'était compliqué de l'aborder. Puis au fur et à mesure des modélisations et de la récupération des différentes maquettes numériques sur le projet, on a réussi à récupérer à minima la modélisation de ces brises soleil qui forment un peu une vague et qui ont plusieurs ailettes selon les vitres. Pour prendre en compte l'impact de ces brises soleil, on est parti du coup de la modélisation qui avait été faite sur Revit. On l'a transféré dans tout un tas de formats de fichiers. Puis au final, on s'est arrêté sur le GBXML qui était visiblement celui qui permettait de sortir, d'avoir un modèle suffisamment représentatif dans des logiciels de thermique. Et on l'a réinjecté derrière dans Design Builder pour faire cette fois-ci plutôt une STD. Donc le parcours est assez sinueux pour arriver finalement à une prise en compte de ces brises soleil. Et ce qu'on a fini par faire en définitive, c'était de prendre notre logiciel de simulation énergétique dans lequel on faisait notre bilan thermique et notre calcul réglementaire, de modéliser des brises soleil et parallèlement dans la STD, on avait lancé donc toutes nos simulations pour essayer d'approcher quels étaient les apports et quel était le gain sur la partie des apports du brise soleil. Et ces apports qu'on avait retrouvés en simulation thermique dynamique, on les a reportés sur notre bilan thermique et calcul réglementaire en modélisant donc des brises soleil de différentes dimensions et en essayant d'approcher justement les résultats qu'on avait eus en simulation énergétique. Donc finalement, on a réussi à modéliser ces brises soleil. Néanmoins, c'était un travail assez conséquent et assez sinueux pour finalement avoir cette bonne prise en compte et derrière pouvoir un peu optimiser finalement nos productions et tous nos systèmes de climatisation, ventilation et chauffage. Donc là où on veut en venir, c'est que vraiment, il y a des choses qui sont faisables et on peut gagner un peu en qualité ou optimiser nos systèmes. Toutefois, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup d'échanges et beaucoup de transferts dans des formats de fichiers et de remodélisation par la suite pour pouvoir réellement prendre en compte certaines complexités des bâtiments qu'on peut rencontrer aujourd'hui.
Et Lise mentionnait votre projet Accor Arena. Tu nous avais fait un rapide rex dessus. Est-ce que tu peux peut-être résumer un peu aussi une autre problématique que tu as observée, Florian, sur ce projet, enfin, parce que tu as un peu testé pas mal de choses, mais qui est aussi intéressant en termes de retour.
Alors, on a essayé aussi effectivement d'autres solutions pour pouvoir améliorer le temps qu'on va passer sur les bilans thermiques et calculs réglementaires. Là, pour le coup, on a travaillé avec ClimaWind, parce que c'est le logiciel avec lequel on a le plus d'habitude de travail. Et la problématique qu'on avait rencontrée sur le projet de l'OL Arena, donc c'est à Lyon, le stade de basket qui est en cours de construction. Aujourd'hui, on avait une problématique principale, c'était de réussir à modéliser ce stade. Donc on a une maquette archi qui est plutôt bien faite. La problématique principale, c'est qu'en fait, le stade en lui-même, c'est une arène. Donc l'espace thermique est une sorte de pyramide inversée, si on veut, qui n'est pas modélisable du point de vue d'un espace ou du point de vue d'une pièce dans les logiciels de modélisation qu'on avait utilisés, à savoir Revit. Ce qui ne permettait pas finalement de pouvoir détecter des adjacences entre les locaux périphériques à cette arène, qui sont des locaux chauffés ou non chauffés, et le stade qui lui, enfin toute l'arène du stade qui a des apports et, assez conséquents. Et donc on n'a pas réussi finalement à détecter toutes ces adjacences et pouvoir optimiser notre temps de modélisation du bilan thermique en récupérant tout simplement la maquette architecturale en amont. Donc il y a encore aussi beaucoup de travail sur ce sujet de modélisation d'espèces qui aujourd'hui sont plutôt des parallélépipèdes plus que des pyramides dans Revit.
Du coup, ça, c'est des choses qu'on intègre aujourd'hui dans la réflexion pour potentiellement sortir les documents de référence sur la simulation. Alors, l'accord Arena sera peut-être un peu particulier, mais ça fait partie de ce qu'on prend aussi en compte dans nos retours d'expérience. Ludovic, toi, tu as travaillé avec un bureau d'études sur un projet.
Alors, pas du tout. Ils ont travaillé tout seuls.
Hein. Ah oui, enfin, ils ont utilisé votre solution.
J'ai vu aussi passer des salles de sport avec des gradins et ce genre de choses depuis Revit pour essayer de les importer. Je vous cache pas qu'on s'est également cassé les dents dessus. Là, j'ai récupéré, je tiens à remercier Indigo pour les slides et pour leur retour d'expérience. Ils ont eu une commande de la part de la ville de Rennes pour réhabiliter. Alors, on n'est pas dans un contexte RE 2020, on est sur de la réhabilitation, mais j'ai envie de dire le principe est identique. Ils souhaitent réhabiliter l'ensemble des campus universitaires de Villejean et de, je sais plus, Beaulieu sur l'ensemble de la ville. Et le cahier des charges avait la volonté très forte d'appuyer le BIM et de tout modéliser. Donc, c'est-à-dire que la ville de Rennes a mis à disposition l'ensemble des maquettes, alors sous format Revit pour le coup, des bâtiments sur lesquels ils prévoient de faire des rénovations, et ils souhaitent avoir une vue très forte que la maquette soit prise en charge et soit alimentée en continu derrière pour pouvoir suivre le bâtiment et avoir un carnet numérique quelque part de leur bâtiment. Donc voilà, on arrive à massifier et à faire de l'utilisation du BIM pour du calcul de thermique. C'était un peu l'idée de la volonté de présenter ce projet-là, qui est quand même assez sensible en termes de taille. Là, on parle de 28 000 m². Il y a eu 7 bâtiments de fait dans cette première phase. On les voit à 3 niveaux, hein, au niveau de l'import, enfin dans Revit là-haut, sur une phase d'import sur laquelle il y a potentiellement sur la photo du centre quelques correctifs à faire sur les traits rouges, et une vue 3D qui va ressortir et qui va permettre de me faire tous mes calculs de thermique derrière, après retouche. Le point positif qui a été noté par l'utilisateur, c'est qu'il, lui, il estime, alors c'est une estimation un peu au doigt mouillé, mais lui, il estime qu'il a gagné sur les 28 000 m² une semaine de temps de saisie de son bâtiment. Donc on peut massifier et gagner du temps sur la saisie grâce au BIM. Sur la slide suivante, on doit retrouver quel... Ouais, ça doit être à peu près le même bâtiment. Atout, donc rapidité, conformité du modèle accru. Il a noté quand même un certain nombre de points d'exigence. Alors je tiens à signaler que les textes viennent également du maître d'ouvrage et de l'utilisateur. Nécessite un travail de coordination entre l'auteur de la modélisation et celui qui va faire. Donc alors, on n'impose pas de protocole de saisie, mais si on peut un peu forcer la main sur la personne qui a fait le modèle en amont, on va quand même gagner du temps et on va avoir beaucoup moins de retravail de la maquette a posteriori à faire dans notre environnement. Ça, c'est un... Ça, c'est quelque chose de notable.
Est-ce que tu as un exemple un peu concret sur ce problème?
J'ai le exemple, quoi. C'est les multimurs.
Les
multimurs. J'en parlais avec des gens chez Vinci dernièrement. La saisie des murs dans Revit, soit je saisis un seul mur qui contient plusieurs couches, soit je saisis plusieurs murs pour chacune des couches. On a prévu des petits outils qui permettent de refusionner les murs et de recréer qu'un seul mur à partir de plusieurs murs dans notre outil. Mais si on peut s'éviter ce type de manipulation et avoir directement une saisie intelligente avec un mur qui contient toutes les couches, on va gagner pas mal de temps. Voilà, c'est le premier, et à chaque fois, sur chaque maquette, on l'a, celle-là.
Je te laisse continuer, mais c'était pour illustrer un peu.
Ouais. Où il reste encore du travail, et c'est les obstacles qu'ils ont, eux, notés. C'est la problématique du transfert, la problématique de la synchronisation, qui vont arriver derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pour l'instant, nous, pas encore trop opéré au travail de remontée de data dans la maquette. On avait, quand on a lancé ça, estimé que les informations importantes à remonter dans la maquette, c'était principalement les puissances de chauffage, les puissances de clim, les débits de ventilation, pour que le bureau d'études ou autre puisse faire son dimensionnement des installations derrière. Et on se rend compte que les retours, notamment dans ce cadre d'un bâtiment, c'est qu'ils veulent remonter beaucoup plus de données dans la maquette. Et c'est un peu des retours que j'ai eu également sur le salon là-dessus. Donc il faut qu'on force le retour d'informations dans l'IFC ou dans la maquette de base. Et l'autre problème qu'on va avoir et qui est plus difficile à mon sens à traiter, ça va être la problématique de la synchronisation. Alors, on sait synchroniser, c'est-à-dire que si vous importez une maquette chez nous, vous l'intégrez, vous la corrigez, vous faites vos calculs, vous pouvez tout à fait reprendre une nouvelle maquette d'archi, la réintégrer, la recorriger et la synchroniser. Mais vous êtes obligé de repasser par toute la procédure de réintégration, recorrection, pour ensuite synchroniser. Et cette phase-là, elle peut être longue. Donc, souvent, malheureusement, si le temps de correction n'est pas valable, vaut mieux recorriger à la main et pas synchroniser. Voilà. Cette problématique-là est vraiment difficile, quoi. Donc, assez vite, on se rend compte, on ouvre la maquette, on la regarde. Est-ce qu'elle est exploitable, pas exploitable? Est-ce qu'elle va être longue à exploiter, pas être longue à exploiter? Et en fonction de ça, si la correction est trop longue, bah, on le fait une fois, puis on coupe le lien et on travaille en parallèle.
Tu avais une dernière slide, mais je pense que c'était... Du coup, merci pour cette partie-là. Alors, on le voit, là, on a illustré ce qu'on a déjà comme retour d'expérience sur l'ART 2012 ou l'ART existant, où on arrive à faire des choses, où on arrive à modéliser. L'ARE 2020 et un peu cette ouverture sur l'environnement nous pose d'autres problématiques à prendre en compte avec la partie, on va dire, base de données. Je sais qu'aujourd'hui, donc vous avez mentionné Edibatec, qui est la base de données un peu de référence sur la partie énergétique et on va dire caractéristiques thermiques des bâtiments. On a vu qu'aujourd'hui, il faut aller chercher les données environnementales sur une autre base de données donc qui s'appelle INIES, qui est donc aujourd'hui la base de données réglementaire. Moi, j'aimerais un peu avoir vos retours, justement, un peu jouer avec toutes ces bases de données, un peu cette approche environnement. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous amène comme complexité ou comme nouvel aspect à prendre en compte, notamment de ce point de vue-là?
En fait, moi, sur la base INIES, j'avais justement une suggestion à proposer. Je trouvais que ce serait mieux si cette base était gratuite. En fait, les bases environnementales en Europe sont toutes gratuites, sauf la française. Et je trouve que c'est un peu dommage. Du coup, c'était une des pistes que je voulais suggérer pour les améliorations à venir pour le BIM pour l'ARE, quoi. Voilà.
Ça, c'est de petits messages. Et du coup, toi, Quentin, tu avais un retour aussi par rapport à cette complexité, notamment la différence avec Edibatec.
Oui, alors c'est vrai que la base Edibatec est plutôt bien intégrée dans les logiciels métiers où elle s'incrémente bien dans la saisie et on n'a pas besoin d'aller forcément rechercher l'information de façon relativement complexe, c'est déjà bien intégré au niveau du logiciel métier. La base INIES, elle est un peu plus récente, elle apparaît dans le cadre de l'ARE 2020. La notion de gratuité, je pense qu'effectivement c'est important parce que les industriels payent leur FDES une certaine somme pour qu'elles puissent être établies, puisqu'il y a une étude derrière, elles sont ensuite déposées. Si on veut parler d'Open BIM ou d'Open Data, c'est vital que celle-ci soit accessible, on va dire, pour avoir des usages un peu différents. Je prends l'exemple peut-être même d'ACV Dynamique, c'est d'être en capacité peut-être à terme, parce qu'aujourd'hui, bon, on tâtonne un peu, hein, comme tout bureau d'études, sur l'empreinte carbone des bâtiments vis-à-vis des différents seuils qui ont été présentés par Cécile tout à l'heure en matière de conformité. Cette ACV dynamique, c'est d'être en capacité à pouvoir comparer des solutions constructives, par exemple, et de voir si, en fonction de ces solutions constructives, ces différentes solutions, revêtement de sol souple, de système d'isolation, le projet est toujours conforme vis-à-vis des seuils de cette RE 2020. Donc voilà, ça c'est un peu le retour d'expérience que l'on en a, et aussi à cette notion d'obsolescence de certaines FDES. FDES, c'est valable 5 ans, je crois, de mémoire. Il y a des études, des fois, où on démarre, la FDES a déjà 4 ans, En phase conception, on a une fiche de données environnementales et sanitaires, puis on passe en phase exécution, le produit ou la FDES du produit n'existe plus. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Est-ce qu'elle reste, elle disparaît de la base de données INIES, elle reste potentiellement dans la base de données de l'étude en elle-même, hein, dans son enregistrement, mais quid de son utilisation derrière et de sa validité, quoi.
Oui, c'est un peu l'idée d'avoir des open bases pour faire des open BIM. Tu voulais, toi aussi, Ludovic...
Oui, je te rejoins. Alors, je rejoins deux points. Alors, elle est techniquement, la base INIES, elle est gratuite à la consultation. Mais à l'intégration, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que si vous voulez l'avoir dans un logiciel, bah, il faut un moment que le logiciel paye. Et c'est là où ça devient peut-être un petit peu dommage. Effectivement, il y a encore, je pense qu'elle tâtonne encore un peu, la base INIES. Il y a l'obsolescence de la fiche, mais on a vu aussi certaines fiches disparaître un peu par magie ou changer de nom ou changer d'ID. Enfin bon, il y a quand même encore un certain nombre de petits problèmes à ce niveau-là qui rendent des fois des pertes de données un peu dommageables.
Et Idibatech et INIES sont couplés ? Un même produit dans Idibatech, c'est le même dans INIES ?
Dans la base Idibatech, on peut avoir le lien de la fiche FDES, mais couplé, en fait, il n'y a pas un travail... Il n'y a pas de travail associatif entre Idibatech et INIES pour l'instant. Après, ça serait bien. Enfin, nous, on voudrait en fait, ça. Enfin...
Vous pousseriez pour avoir plutôt une association qu'on trouve peut-être dans un même environnement l'ensemble des données, parce que c'est un peu ça aussi l'enjeu. Nous, on parle de calcul, de faire dans un même endroit, trouver la même donnée de quantité, etc. Mais après, on doit travailler sur une base et peut-être de trouver dans un même endroit.
Non, mais ça serait logique. Enfin, pour moi, ça me semble tout à fait logique. C'est pas si magique que ça, enfin, c'est réalisable.
Et du coup, pour un peu conclure sur ce que ça représente pour vous l'Open BIM, donc, on se rend compte que l'Open BIM, c'est un peu l'Open BIM sur toute la chaîne de valeur. Il n'y a pas que dans la modélisation et dans les outils, il y a aussi dans les bases de données qu'on utilise que c'est aussi un enjeu. On s'en rend compte, l'Aéro 2020, c'est une nouvelle base de données, des nouvelles propriétés, une nouvelle composante. Donc en fait, on se rend compte que l'Open BIM, ça ne s'arrête pas juste à la maquette. Est-ce que chacun a un peu en un mot, quelles opportunités quand même vous y voyez en termes d'usage, de perspective, pourquoi vous y croyez l'Open BIM et que vous êtes dans le GTBM et à Building Spark et que vous dites que tout n'est pas perdu et que voilà, on peut faire des choses et que demain, ce sera encore mieux. Ludovic, peut-être pour commencer.
Moi j'y crois mais par contre je me dis enfin ouais faut faire gaffe avec les gros outils de CAO et d'être open, je trouve que c'est important de bien se découper d'eux. Après je me dis qu'il y a plusieurs, on l'a un peu vu, c'est à dire que la maquette ACV c'est pas la maquette de thermique, et je pense que l'open BIM de l'ACV c'est pas forcément non plus l'open BIM de la thermique. Moi, je pousse... Enfin, on a une tendance à se rendre compte que notamment le format GBXML, qui est très, très adapté à la thermique, c'est un super format d'échange entre thermiciens. Si on veut parler entre nous, pourquoi utiliser quelque chose de compliqué alors qu'on a un outil qui est très simple, qui est le GBXML, et qui nous permet de discuter très facilement. Nous, c'est un peu les retours qu'on a aujourd'hui, où les gens... Alors, ils vont peut-être récupérer des IFC, on va le retravailler dans notre outil, mais après... Pourquoi ne pas le ressortir de notre outil pour aller chez les autres? Et on a des demandes en ce sens-là. Donc, par contre, notre idée, c'est plutôt de partir vers un autre format Open BIM, enfin, ouais, voilà, que serait le GBXML. Voilà.
Donc, des formats, un usage, pourquoi pas un format, ou en tout cas des modèles. Lise, est-ce que c'est aussi un peu ta conclusion? Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vois, toi aussi, un peu comme perspective?
Moi, je trouve, en fait... le fait d'avoir cette réglementation environnementale pose des nouveaux problèmes qui sont des problèmes intéressants et notamment on a un peu, enfin vous l'avez un peu évoqué, mais le fait que l'idée du BIM c'est l'interopérabilité entre les différents acteurs, et là peut-être qu'on va être encouragé à développer nos interactions avec les économistes, et je trouve ça intéressant. Voilà. Bah parce qu'en fait, les économistes, c'est ceux qui ont les données environnementales. Et pour moi, c'est une piste de développement intéressante.
Finalement, plus de... Enfin, amener encore d'autres métiers autour de la table, autour de l'énergétique et de l'environnement. Et plus d'interopérabilité dans le partage des données, puisque finalement, c'est vrai que les quantitatifs, c'est plutôt l'économiste aujourd'hui qui les fait.
Exactement.
C'est plutôt positif. Et toi, Florian
Moi, ce serait plutôt sur les méthodes de travail du point de vue des thermiciens, où Aujourd'hui, on sent chez nous un transfert des modes de fonctionnement vers une saisie complète depuis la base pour réaliser un bilan thermique ou un calcul réglementaire ou une STD, vers peut-être des modes de format où on va récupérer de la donnée qui proviendrait par exemple d'une maquette architecture pour pouvoir l'intégrer quelque part dans nos logiciels et transférer la partie saisie vers du contrôle qualité de ce qui a été récupéré dans le modèle. Et là aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail et beaucoup de chemin à faire pour voir, pour réussir à comprendre si oui ou non on va réussir à gagner en temps, en qualité là-dessus. Mais aujourd'hui, on essaye de prendre ce cap-là, de commencer à intégrer de plus en plus ces maquettes archi dans nos logiciels de modélisation pour gagner un peu de temps déjà de modélisation, ne serait-ce que sur l'intégration de la dénomination des locaux qui, sur certains projets, peut prendre beaucoup de temps. Rien que là, si on arrive à gagner du temps, c'est déjà beaucoup de choses. Donc, plutôt sur le travail d'intermittent aujourd'hui, c'est là où je pense qu'il y a des évolutions liées à l'Open BIM.
Et du coup, le BIM, c'est un enjeu pour le Fort Franchetot, enfin, vis-à-vis de ça, notamment
Alors clairement, oui, c'est un enjeu parce que pour nous, on a plusieurs services supports. La thermique en est un, mais on a beaucoup d'autres corps de métier chez nous. C'est un enjeu, oui, puisque on cherche à repousser un peu à développer nos façons de faire et réussir à transférer les données thermiques à nos responsables d'affaires qui vont travailler sur nos projets. C'est des sujets qu'on a commencé à aborder également sur certaines affaires où on essaye d'intégrer par exemple des débits de ventilation ou des puissances d'apport ou de déperdition dans certains locaux pour faciliter le travail d'un dessinateur et de l'anticiper pour que finalement toutes les données qui proviennent d'un bilan thermique puissent être utilisées directement dans la modélisation en passant par la maquette. Donc on avait commencé à travailler sur ces sujets-là et oui, c'est un enjeu pour nous. Okay.
Et Quentin, toi en tant que bureau d'études et puis avec tes multicasquettes autres
Oui, effectivement. Alors moi, sur cet aspect-là, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'interaction, alors je parle plutôt sur le volet conception, des membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre entre eux, principalement l'architecte qui a une part de responsabilité importante. C'est lui qui initie la maquette numérique, c'est lui qui commence à dessiner. On parlait de la décomposition des murs. Est-ce que c'est plusieurs murs? Est-ce que c'est plusieurs couches dans le mur? Donc ça part nécessairement par une convention BIM qui soit correctement rédigée et où le thermicien précise ses besoins, d'une part. Donc ça, c'est le premier aspect plutôt humain. Et sur l'aspect plutôt technique, c'est la notion d'interopérabilité entre les logiciels. C'est que tant qu'il n'y aura pas, en tout cas que les éditeurs de logiciels, qu'ils soient d'architecture ou de thermique, ne se mettent pas autour de la table pour discuter ou qu'il n'y ait pas cette notion d'interopérabilité sur l'IFC ou le GBXML, effectivement, qui peut être une bonne opportunité, il y aura toujours des problèmes de communication, de la perte de données, de la perte d'informations, ce qui engendre derrière de la correction de maquettes dans nos outils métiers ou nécessité de compléter de la donnée. Déjà, rien que sur un apport. Alors, si on doit encore exporter de nos outils métiers vers celle de la maquette, on va dire, numérique centrale, ça complexifie d'autant, on va dire, la situation, quoi.
Merci à vous quatre. Moi, je voudrais juste dire que donc là, c'est les représentants, enfin quelques représentants du GTBEN. Donc vous avez la liste ici. On est vraiment un mélange éditeurs, utilisateurs, enfin praticiens. Aujourd'hui, notre enjeu pour nous, c'est vraiment, on a commencé à esquisser du coup notre feuille de route pour définir justement une méthodologie, une standardisation des modèles énergétiques et environnementaux et faire en sorte que justement l'Open BIM soit une vraie réalité et puisse vraiment faciliter la réalisation de ces calculs. Donc aujourd'hui, on a une communauté active où on écrit notre feuille de route et l'objectif, c'est vraiment de développer ces référentiels. Et je voulais les remercier tous les quatre pour leur préparation parce qu'ils y ont passé un petit peu dedans. Ce n'est pas un exercice qu'on a l'habitude et ce n'est pas forcément le sujet le plus représentatif. Voilà, réaliser des calculs, c'est peut-être la face un peu cachée du BIM, mais en tout cas, c'est un enjeu qui est vraiment majeur et notamment vis-à-vis de la RE 2020 et de la démarche et tout ce qui est développement durable dans le bâtiment. C'est vraiment une opportunité et nous, on y croit. Donc merci à eux en tout cas.